France Inter.
France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, dit-on. Et si c'était parce que le fleuve est sans arrêt dégradé par les humains ? Deux scientifiques se sont lancés dans une grande étude de la Loire. Ils ont descendu le cours du fleuve en canoë, en bateau et à pied, afin d'observer de près les espèces qui y vivent, y compris celles qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais aussi la pollution aux microplastiques. Loire Sentinelle, c'est le nom de ce vaste projet de recherche hébergé au sein de la coopérative Coup de Pouce 49. Et c'est avec ce périple le long de la Loire que nous entamons, dans les carnets de campagne, une semaine en Anjou, le département du Maine-et-Loire. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Bonjour Barbara Rétoré.
Bonjour.
Vous êtes biologiste, installée à Chalonne-sur-Loire, où l'on retrouve d'ailleurs le jeu des 1000 euros dans un court instant. Et vous avez créé, avec Julien Chapuis, qui est votre compagnon et qui est également scientifique, une structure de recherche baptisée NatExplorer. Alors le projet Loire Sentinelle, c'était en 2022, cette descente de la Loire, mais il vous occupe toujours beaucoup aujourd'hui. Où est-ce que vous en êtes de l'analyse des données récoltées ?
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que on a initié ce projet avec une descente intégrale du fleuve, comme si c'était le point de départ, remonter aux sources, au sens strict du fleuve. Et ça nous a amené à collecter pendant 3 mois, en mai, juin, juillet 2022, des données sur la biodiversité et sur la contamination plastique du fleuve. Depuis notre retour fin 2022, nous ne cessons de mener notre travail aussi de médiation scientifique, donc de culture scientifique, de rencontre avec un public large et varié, des scolaires, des tout-petits jusqu'aux très grands à l'université, mais aussi le grand public. Donc nous diffusons les premiers résultats aujourd'hui liés à la biodiversité et à la contamination plastique du fleuve, mais nous sommes surtout en ce moment même dans la rédaction d'un rapport que nous allons rendre public, nous espérons en fin d'année 2024, voire début d'année 2025.
Oui, on n'imagine pas à quel point ça peut être long de récolter des données et ensuite de les analyser.
Oui, ça prend toujours longtemps la science. Le temps de la science est un temps long parce que ces analyses, en laboratoire prennent beaucoup de temps et puis surtout qu'on a beaucoup de données à traiter, notamment pour les questions de biodiversité. Donc l'enquête est toujours en cours avec les analyses des échantillons récoltés en 2022. En effet.
Alors parlons d'abord, s'il vous plaît, de la pollution aux microplastiques. Est-ce que vous pouviez imaginer, avant de commencer, ce que vous avez constaté le long de la Loire ?
J'ai envie de vous dire oui et non, parce que nos hypothèses de recherche de départ, c'était de trouver des plastiques en Loire, chose que nous avons réalisée, en effet, puisque partout on va chercher des plastiques de petite taille aujourd'hui. Les microplastiques, c'est une particule plastique en dessous de 5 mm et au-dessus de 1 micron, donc 0,001 mm. Et ces petites particules, à chaque fois qu'on va les chercher, partout aujourd'hui sur la planète entière, mais aussi à l'intérieur des corps des êtres vivants, on les trouve. Donc il n'y avait pas de raison de ne pas en trouver, si vous voulez, mais on aurait aimé piocher à côté, pour être tout à fait sincère. Et jamais une seule fois sur nos 20 sites d'échantillonnage, nos échantillons n'ont été épargnés par la contamination en microplastique. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle. Ça veut aussi dire, et souvent on nous pose la question, est-ce que même dès les sources de la Loire, et la réponse est oui, malheureusement, dès les sources de la Loire, c'est pas une surprise, mais il fallait encore aller le chercher. Il y a des microplastiques dans l'eau.
Alors d'où viennent-ils ces microplastiques ?
Alors pour les sources, c'est un tout petit peu particulier, puisque les sources, on peut dire, c'est les eaux qui sourdent de la terre, qui viennent du souterrain. Donc là, on pourrait poser l'hypothèse qu'ils viennent du souterrain, même si c'est pas notre première hypothèse pour les sources. Ça serait sans doute une contamination extérieure, qui est la contamination la plus probable partout dans le monde, par les vents et par les pluies. Donc on sait aujourd'hui que les petites échelles de particules plastiques ont rejoint les cycles de l'eau et le cycle de l'air. Donc on les trouve dans la pluie, par exemple, qui tombe. On la trouve aussi dans l'évaporation. Donc en fait, finalement, puisque les particules plastiques ont intégré le cycle de l'eau, il est évident qu'on peut en trouver à peu près partout dans les cours d'eau, les eaux superficielles. Et puis après, par les vents. Pourquoi par les vents ? Mais parce que tout simplement, ces déchets que l'on trouve à des grosses échelles que l'on observe à peu près partout où nous sommes, se dégrade d'abord sur les sols et puis in fine par les eaux de ruissellement terminent leur cours et leur vie souvent de dégradation au sein des eaux continentales avant éventuellement rejoindre l'océan.
On a du mal à imaginer comment le plastique utilisé par les humains se retrouve dans la Loire, le microplastique en l'occurrence. Il y a notamment notre usage du textile qui est en cause.
Exactement. Et ça, c'est vrai pour l'entièreté du cours d'eau qui suit les sources, parce que pour les sources, on peut les mettre de côté dans ce cadre très précis. C'est que nos eaux de lavage de nos machines à laver sont largement contaminées avec les textiles synthétiques qui occupent la majorité, d'ailleurs, des textiles qu'on achète et qu'on consomme et qu'on lave donc aujourd'hui. Il n'y a pas de criblage suffisant dans nos stations d'épuration aujourd'hui pour retirer de nos eaux qui rejoignent ensuite les cours d'eau les particules plastiques, mais d'autres contaminants aussi. Hein. Il n'y a pas que les plastiques. Donc en effet, nos eaux de machines de machines à laver sont largement contaminées et on a trouvé énormément de fibres, particulièrement de fibres textiles synthétiques dans nos échantillons sur tout le cours de la Loire. C'est la grande majorité des plastiques que l'on trouve.
Quelle conclusion très concrète en tirez-vous ? Est-ce qu'il faudrait moins laver nos habits ?
Oui, c'est une première chose. On peut moins laver ses vêtements. On sait aussi que plus de 60% des fibres textiles qui s'échappent de nos vêtements, c'est pendant le premier lavage. Donc ça veut dire que les vêtements de seconde main, c'est aussi une meilleure solution. On sait qu'on contaminera moins nos eaux de lavage. Et puis clairement aussi tenter de se désintoxiquer notre garde-robe des matières textiles synthétiques. Donc aller vers des vêtements de seconde main, des vêtements avec des matières naturelles comme le lin, le coton, le chanvre, et puis évidemment moins consommer de vêtements.
Voilà pour le volet pollution, dont on pourrait dire évidemment beaucoup plus, mais vous avez aussi observé des habitants de la Loire pendant ce périple, et notamment un organisme microscopique qu'on croyait disparu.
Oui, alors la surprise dans nos échantillons d'ADN environnemental, c'est-à-dire nous sommes allés chercher les traces invisibles laissées par tous les vivants du fleuve, c'est-à-dire qu'on les observait pas directement, ça c'est la particularité de cette méthode d'échantillonnage. Et parmi la biodiversité de la Loire, la plus grande partie est représentée par des individus en effet d'espèces microscopiques, des micro-organismes qui appartiennent à un grand règne qu'on appelle les chromistes, qui sont des micro-algues, qui sont des foraminifères, des individus à petites coquilles, qui sont ni des animaux, ni des champignons, ni des plantes, si vous voulez. Et en effet, nos surprises sont à l'égard de quelques retrouvailles, on va dire, puisque en fait, c'est simplement que ces espèces n'avaient pas disparu de la Loire, probablement, mais qu'elles échappaient de nos radars d'inventaire. Et notamment, c'est plutôt de l'ordre des mollusques, en l'occurrence des bivalves, des moules d'eau douce, si vous voulez, qui ont été retrouvées en Loire, alors qu'on les pensait disparues, qu'on appelle des anodontes, par exemple, sans rentrer trop dans le détail des noms scientifiques. Et donc ça veut dire qu'il y a encore des populations relictuelles, des populations en fait qui résistent aux changements qu'on pensait disparus et qui ont trouvé des conditions de vie propices à leur survie.
La question n'est pas très scientifique, mais est-ce que cette découverte a été émouvante pour vous ?
Alors c'est rigolo cette question parce qu'en fait on se la pose beaucoup sur le questionnement par rapport aux émotions et en fait le travail de l'ADN autour de l'ADN environnemental, c'est que nos résultats ils arrivent 3, 4, 6, 1 an ou 6 mois après avoir prélevé l'eau dans la Loire. Donc en fait le lien avec les émotions il est très fort quand on reçoit ces tableaux Excel qui n'ont vraiment rien de très romantique pour dire simplement et finalement on se remémore les moments d'échantillonnage quand on était sur le terrain avec notre pompe à eau pour l'ADN. Et souvent, on se disait, et on ironisait sur ces questions avec Julien, sur le fait que allons-nous découvrir telle ou telle espèce, etc. On se disait, c'est sûrement un super endroit pour telle ou telle espèce. Mais en fait, on n'en savait rien parce qu'on ne voyait rien. Et le fait de trouver des tableaux Excel ultra intéressant, passionnant et émouvant. Ça peut paraître étrange pour beaucoup d'entre nous et pour moi-même d'ailleurs. Mais vraiment, oui, en effet, il y a de l'émotion dans la lecture de ces tableaux Excel, croyez-moi, parce que ça révèle beaucoup de choses. Révéler l'invisible pour nous, c'est rendre peut-être meilleure justice à qui peuple la Loire aujourd'hui. Et c'est tout le travail qu'on essaye de mener à présent.
Alors, ce qui est émouvant aussi, pour le coup, c'est de voir un animal en vrai, et notamment une loutre, qui est une espèce menacée sur la Loire.
Ouais, exactement. Et ça, c'est parmi les espèces plus difficiles à observer, comme les espèces nocturnes. Là, ici, ça aurait pu être les castors ou les loutres. Alors, les loutres, elles sont revenues en Loire, pas depuis si longtemps, depuis quelques dizaines d'années, mais c'est assez récent, finalement, dans leur histoire de vie. Et donc, on aurait aimé les voir avec notre propre Dieu, et nos découvertes en ADN ont montré leur présence dès les sources, dès 3 km du point zéro, hein, des sources de la Loire. Et ça, c'était une super surprise parce que on se disait bien que c'était qu'elles auraient pu être présentes à ce moment-là pendant nos échantillonnages, mais on les avait pas vues encore à proprement parler, ni les naturalistes du coin. Donc il y avait des suspicions de présence et ces résultats sont venus conforter la présence des loutres dès les sources de la Loire.
Alors vous voulez dire que vous avez vu l'ADN de la loutre, mais pas la loutre elle-même?
Non, la loutre, on l'a jamais vue. Elle est passée sous nos radars de nos yeux pendant la descente. Donc, les traces ADN, ça s'est vu plus tard, mais on a vu des empreintes, ce qu'on appelle très joliment d'ailleurs les épreintes, qui sont les déjections des loutres. Donc oui, on savait qu'on était en présence de loutres. D'ailleurs, elles nous ont largement plus vues que nous avons pu les voir. Ça, c'est sûr. Mais l'ADN est venu conforter ces résultats-là après.
Qu'est-ce qui vous a le plus étonné au cours de ce voyage le long de la Loire?
Très certainement, la première chose qui me vient en tête, c'est moi qui suis ligérienne de naissance. Je suis née au bord du fleuve en Anjou. Julien est né à Nantes, aussi en bord de Loire. Et je crois qu'on ne soupçonnait pas, alors que c'était un rêve d'enfant sans doute de descendre le cours intégral de ce fleuve, on ne soupçonnait pas à quel point on pouvait vivre et traverser des paysages et les éprouver aussi différents dans un fleuve de 1000 km. On a l'impression que chaque jour, on se réveillait dans une sorte d'autre Loire. On a trouvé que la Loire, elle a de multiples faciès, de multiples paysages, ce qui en fait très certainement, évidemment, sa richesse, parce que ces milieux ne sont pas des décors qu'on traverse, hein, ce sont des milieux habités par des humains et des autres qu'humains. Et donc, je crois que c'est surtout ça que je retiens, c'est toutes ces émotions partagées de 3 mois de descente lente au fil de l'eau, à se réveiller avec une Loire que je croyais intimement connue avant mon départ, et puis que suite à cette aventure, finalement, je me rends compte que je la connais encore pas assez.
Et d'ailleurs, vous avez encore rendez-vous avec la Loire cet été, je crois.
Exactement. Bah, je crois qu'on va donner rendez-vous à la Loire quasiment tout le temps et tous les ans désormais. C'est un petit peu l'ambition du projet Loire Sentinelle, c'est de s'étaler dans le temps et dans l'espace pour prendre le pouls du fleuve et de son bassin versant. Donc en effet, on donne rendez-vous à toutes et tous, angevins, angevines, et puis d'à côté pour nous accompagner, nous suivre dans une petite, toute petite descente de la Loire, donc dans le Maine-et-Loire, dans le 49, sur les premiers jours des grandes vacances scolaires entre le 6 et le 14 juillet, avec une grande fête finale. On fera escale tous les jours, rencontrer les riverains, les riveraines du fleuve. Et on fera une grande fête, un grand événement final à Chalonnes-sur-Loire, là où nous vivons aujourd'hui, pour le 14 juillet en plus. Voilà.
Voilà, ce sera un feu d'artifice autour de la Loire. On trouvera toutes les infos pratiques et les détails sur votre site internet natexplorer.fr. Merci beaucoup Barbara Rétoré.
Merci Dorothée.
Bonne journée, à bientôt.
Bonne journée.
Un message d'auditrice reçu dans la boîte mail des carnets de campagne. Puisque vous passez par le Maine-et-Loire, écrit Valérie dans son courriel, j'en profite pour signaler une association assez unique à Baugé en Anjou. L'Opéra de Baugé propose en milieu rural un accès à une forme artistique perçue comme élitiste. Fondée il y a une vingtaine d'années par John et Bernadette Grimmett, un couple britannique, l'Opéra de Baugé a lieu tous les étés dans leur jardin. Le festival propose des opéras, des concerts, concert et un concours de chef d'orchestre. Un pique-nique au jardin est proposé à l'entracte et les Grimettes prévoient la construction d'un théâtre vert pour une expérience pleinement champêtre, écrit encore Valérie. L'Opéra de Baugé, c'est donc à Baugé en Anjou, dans le Maine-et-Loire.
France Inter. Carnet de campagne.
N'hésitez pas à nous écrire, bien sûr, sur le site des carnets de campagne, franceinter.fr. Vous cliquez sur « Contacter l'émission » et vous pouvez signaler des initiatives dans le Maine-et-Loire, mais aussi en Vendée et en Alsace, au Rhin et Bas-Rhin.